This is one device.
My worst fears are that we cause significant harm to the world.
3, 2, 1.
Bonjour, c'est Frédéric Filloux. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Les entrepreneurs sont des personnalités hors normes. Ils doivent être capables d'anticiper le futur, savoir convaincre des investisseurs, des partenaires et des clients, presque systématiquement réticents, et subir d'innombrables rejets, parfois pendant des années. Et une fois que leur projet est financé, c'est le début d'une autre série de soucis qui vont concerner les recrutements, la croissance ou la concurrence. C'est un enfer. D'où la question lancinante, quelle est la source de cette motivation exceptionnelle de l'entrepreneur ? Comment un homme ou une femme normalement constituée intellectuellement et émotionnellement parvient à gérer une telle adversité et surtout sur une période aussi longue? Pour en parler aujourd'hui dans Contrôle F, j'ai invité un observateur sagace, aussi acteur de cet écosystème. Romain Sermant est le directeur de BPI France pour l'Amérique du Nord. Il est basé à San Francisco depuis plus de 10 ans et passe son temps à rencontrer des gens qui créent des startups et les investisseurs qui les financent. Sa thèse est intéressante. Selon lui, la caractéristique commune de ce qu'il appelle les grands entrepreneurs, celles et ceux qui sont capables de porter une entreprise à hauteur de plusieurs milliards de dollars de valorisation, ces gens-là ont pratiquement tous une faille personnelle et émotionnelle, un traumatisme lié à leur histoire familiale ou à leur début dans la vie. La première fois où Romain m'a parlé de façon précise et documentée de cela, j'ai été sidéré par la fréquence, le systématisme des exemples qu'il m'a cités. C'est ce que j'ai voulu approfondir dans ce nouvel épisode de Contrôle F, où l'on va parler de la motivation intime des grands entrepreneurs. On va puiser dans les observations et l'expérience de Romain Sermant, et même prendre des références dans une série télévisée. C'est parti. Bonjour Romain.
Bonjour Frédéric.
Est-ce que tu as vu la série Billions ?
Je l'ai vue. Je suis un fan de Billions.
Dans un des tout premiers épisodes de la série 7, il y a quelque chose qui m'a fait penser à toi, où on a ce jeune type surdoué de 20, 30 ans à peine, qui est co-CEO du fonds de Mike Prince, qui vient faire la leçon au vieux briscard de l'investissement en lui récitant la biographie des surperformers, comme on dit, c'est-à-dire des jeunes gens qui arrivent à avoir des résultats financiers absolument phénoménaux dans le hedge funds, et il lui récite une biographie relativement convenue, et l'autre, le vieux briscard, l'interrompt et lui dit...
Tu parles de Wags, là.
Je parle de Wags, exactement. Personnage haut en couleur. Et qui lui dit, arrête avec tes bullshit de LinkedIn, voilà la bio des mecs. Et il récite à propos de chacun des traders principaux de la firme, toute leur biographie sous l'angle de leur faille, de leur traumatisme, du fait que l'un était le vilain petit canard de sa famille et que ses frères le prenaient pour un abruti et que ça lui a donné une motivation monstrueuse, que l'autre est fils d'immigrant, est arrivé sans le sou pendant 10 ans et il n'a eu de cesse de se refaire et apparemment ça marche très bien pour lui. Et il récite la biographie des gens sous cet angle. Et en fait, j'ai pensé à toi et à la conversation qu'on a eue à plusieurs reprises à San Francisco et ailleurs, à propos des profils des entrepreneurs. Parce que ça, c'est un facteur que tu regardes et qui t'intéresse. Raconte-nous ça.
C'est un sujet majeur, la psychologie de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Au fond, la question fondamentale, c'est quoi ? C'est que faut être fou pour entreprendre.
Oui.
Parce que c'est plus que dur. D'abord, c'est pas un métier. C'est pas un métier d'être entrepreneur, médecin, c'est un métier.
Oui, on a beau faire la business school de Harvard ou de Stanford, on n'est pas pour autant formé à ça.
Exactement. Et puis, c'est une forme de transition. Une transition de carrière, une transition dans ta vie. Et puis, tu es toi-même en transition. Tu dois passer d'une idée à un produit, éventuellement à un succès.
Un succès dans des proportions ridicules de l'ordre de 5%, quoi.
Oui. Donc, quand tu entreprends, au départ, hein, bien sûr, t'es loin d'être arrivé, par définition. C'est une forme de transition. Bon, donc, c'est choisir quelque chose qui n'est pas un métier, mais qui est de créer quelque chose, c'est vrai pour les artistes, hein. C'est une psychologie particulière quand même. C'est pas pour tout le monde. Puis surtout, c'est d'une difficulté sans nom.
Oui.
C'est des noms en permanence. Tu te lèves le matin, c'est des problèmes. Tu te couches le soir, c'est d'autres problèmes. Tu dors pas la nuit. Donc, il y a une part de folie pour faire ça. C'est du sacrifice familial.
Totalement.
Les conjoints, ouais. C'est pas facile. Donc, la question de fond, c'est qu'est-ce qui motive ces entrepreneurs pour les pousser, au fond, à tenter de grimper en haut de l'Himalaya, mais avec des tongs.
Ouais.
C'est un peu ça, quand même. Ouais. Et donc, je crois que c'est la question qui nous amène, c'est la question de la motivation. Il y a une expression en anglais, aux États-Unis, c'est « chip on the shoulder », c'est-à-dire d'où vient la petite voix dans ta tête qui te dit « continue, 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 continue », et pendant 10 ans, 15 ans. Hein. Alors, moi, à San Francisco, j'ai de plus en plus de discussions derrière des portes fermées, avec des investisseurs, mais attention, les bons, hein, ceux qui savent que ce qui compte avant tout, c'est les entrepreneurs. Je parle des investisseurs en early stage, bien
oui,
sûr.
Oui, c'est-à-dire à un stade préliminaire où il y a l'idée, il y a éventuellement un MVP, ce qu'on appelle un minimum viable product, donc un prototype en quelque sorte, et qui viennent voir les investisseurs.
Exactement. Et ce qui compte, c'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Et donc, ce qu'on cherche quand on est investisseur, c'est des gens dont on sait que la motivation est absolument exceptionnelle, au sens propre du terme, exception.
Oui.
C'est-à-dire un truc qui n'existe en fait en général pas. C'est absolument hors norme. L'exemple le plus classique, vu des États-Unis, hein, mais c'est absolument la même chose ici, en France. D'abord, c'est les immigrés. Quand ils migrent, en général... D'abord, c'est pas forcément un choix totalement voulu.
Oui.
Et ensuite, le parcours va être quand même compliqué.
Oui.
Exemple, je connais un entrepreneur, c'est un Ouïghour.
Ah oui ?
Sa famille a fui dans les années 70.
Mm-hmm.
3 ans de camp de réfugiés en Turquie. À ce moment-là, lui, il a 5 ans, 6 ans.
Oui.
3 ans de camp de réfugiés. Ensuite, ils arrivent aux États-Unis. Droit d'asile. Il s'installe, sa famille parle pas anglais.
Oui.
Et il s'installe dans la banlieue de Philadelphie. Il faut voir la banlieue de Philadelphie dans les années 80.
Oui, c'est pas génial. Hein, ça,
c'est pas
confirme,
génial.
C'est pas terrible.
Tu parlais de Billions, mais il y a d'autres séries sur le sujet.
Oui. The Wire, notamment. C'est
exactement.
Ça que tu faisais référence. Okay.
C'est Baltimore, Philadelphie.
Baltimore, oui, c'est pareil.
Il va à l'école à l'américaine. Il fait son bonhomme de chemin. Il finit à Wharton.
Wharton, c'est une des plus belles business schools aux États-Unis.
Absolument. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il devient sales engineer, c'est-à-dire que c'est un ingénieur de formation, et puis il rentre dans les grandes boîtes tech. La première, c'était Oracle. Et donc, son rôle, c'est d'accompagner les vendeurs, d'être à leur côté pour expliquer aux clients, aux clients potentiels, les aspects techniques du produit.
Oui.
Et c'est lui qui me raconte. Pendant 10 ans, le voilà sur la route, à rencontrer des clients, qui, franchement, en général, sont des mâles blancs de 40 à 60 ans, et qui ne le regardent jamais.
Ah oui.
Bah parce qu'il n'a pas une gueule du coin.
Oui.
Tu vois,
oui.
Il a une gueule de Ouïghour.
Oui.
Le type a vécu en Chine, ils ont fui. Il était petit, tous les autres, ils avaient des copains à l'école.
Oui.
Lui, c'était un camp de réfugiés en Turquie.
Mmh.
Il fait une grande école américaine et pendant 10 ans, personne ne le regarde. Je ne te raconte pas la haine du bonhomme. Le mec a faim. Au passage, c'est quand même la raison pour laquelle, aux États-Unis, une licorne sur deux est fondée par un immigré. Bah, quand tu regardes le parcours des immigrés, il y en a pour qui ça se passe très bien. Hein.
Oui.
Enfin, en général, c'est compliqué.
C'est toujours compliqué parce que tous les immigrés à qui j'ai pu, moi, parler quand j'habitais là-bas, ils finissent toujours par expliquer quelques épisodes extraordinairement douloureux de leur intégration.
Ah oui, toujours. Donc là, il y a une motivation chez ces immigrés. Il y a une motivation de réussite, de prouver aux autres qu'il a toute sa place dans la société américaine, qu'il est aussi bon qu'eux. Il doit prouver plein de choses. Et là, la motivation, elle est juste, mais monumentale. Il y a un autre sujet, ça va être un autre exemple, très délicat. Très souvent, moi, ce que j'observe, c'est un problème du rapport au père. Et c'est absolument fascinant. Alors, il y a toute une gamme de traumas. Honnêtement, je discutais il y a quelques mois, on va dire, avec un partenaire de Sequoia, que je ne citerai pas.
OK, Sequoia, c'est la première firme de venture capital
historique. Il me disait... Dans leur portfolio, ils ont un nombre qui est vraiment pas négligeable d'enfants battus. D'enfants battus.
Vraiment ?
Oui. C'est ça, en fait, c'est cette discussion qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'enjeu du trauma chez les entrepreneurs. Donc là, on est dans un cas extrême. Hein,
oui.
Mais tu as des exemples que moi, je connais bien, de problèmes de rapport au père. Exemple. Je vais citer la boîte qui s'appelle Causely, une boîte américaine. Hein. Mm-hmm. Deux cofondateurs, une femme et un homme.
Qui fait quoi, Causely ?
Ils travaillent sur le problème de ce qu'on appelle l'observabilité. En clair, t'es une entreprise, t'as du software, et puis ça bug. Et ça peut durer 2 jours. Mm. L'enjeu, c'est de créer des logiciels qui repèrent l'erreur et la corrigent en temps réel. Techniquement, c'est pas réglé.
Donc, ouais, voilà. D'accord, ok.
Donc l'un des cofondateurs, qui est israélien et en Israël, c'est pas un genou. Il a plus de 60 ans et c'est pas sa première boîte. Sa précédente boîte, c'est Turbonomic. Le mec, ça fait 30 ans qu'il travaille sur ce problème-là. Qui est un problème mathématique. Hein.
Ouais.
Et bien, Turbonomic, il l'a vendu à IBM pour 2 milliards de dollars. Donc voilà quelqu'un, il a 60 ans, il est à Tel Aviv, il a aucun problème d'argent. Mm. Et voilà qu'il refait une autre boîte, Causely. Et il recommence, il continue avec une motivation, il a toujours pas réglé son problème. Pourquoi ? Et bien, voilà la réponse. Son père était un juif ukrainien qui a fui l'Ukraine pendant la guerre et qui s'est retrouvé dans l'État d'Israël fin 48. Donc, à la naissance de l'État d'Israël. Il rentre ensuite à Technion. Il devient l'un des premiers étudiants de Technion.
Technion, c'est le grand institut, c'est l'équivalent du MIT israélien.
Voilà. Ouais. Et son père était un mathématicien ukrainien. Et son père estimait que... C'est lui qui me raconte, hein, oui. J'invente rien. Son père estimait que c'était pas un grand mathématicien, la médaille Fields, ce serait pas pour lui. Mais il voulait, que ce, soit, il voulait que ce soit pour son fils, l'entrepreneur en question. Et donc son père, quand son fils avait 6 ans, a commencé à lui enseigner les mathématiques. Et il a tout misé sur lui. Donc le fils, il s'est rendu compte que lui non plus, peut-être, il n'aurait pas la médaille Fields. Mais il veut pas décevoir son père. Et donc le choix qu'il a fait, c'est de faire des boîtes les plus énormes possibles, pour prouver à son père qui est aujourd'hui décédé, que c'était pas une tâche. On en est là. Hein.
Et en plus, c'est les traumatismes qui se prolongent sur des décennies et des décennies. Si ton mec a 60 ans...
Ni toi ni moi ne sommes psychologues.
Ouais, non,
malheureusement, parce que je pense que les psychologues, c'est peut-être des très bons investisseurs.
Ouais,
en fait, hein.
Probablement, oui.
D'ailleurs, il y a une psychologue dans Billions.
Oui, absolument. C'est Wendy Rhodes et elle se dit performance coach.
Exactement.
Parce que, comme tu le dis, les gens dans les hedge funds sont super smart.
Exactement. Ouais. Donc, le rapport au père, c'est fascinant. Hein le rapport au père, ça revient très souvent. Alors, ça revient très souvent chez les entrepreneurs qui, de toute façon, ont déjà prouvé qu'ils étaient allés très loin. Franchement, faire une boîte, la vente de 2 milliards, il n'y en a pas beaucoup.
Non.
Il y en a vraiment. Là, tu es dans l'élite de l'élite.
Oui, ouais, tout à fait.
Mais ça revient en permanence, c'est fascinant.
Ce qui m'intéresse dans ce que tu as évoqué sur Sequoia, donc ce fonds géant de capital risque, c'est quand même que l'investment committee, les partners...
Cherchent ça.
C'est-à-dire, ils ont détecté...
Allez, regarde, je vais te donner un vrai exemple. Je suis chez Foundation Capital, qui est un fonds de la vallée.
Ouais.
Et je prends un café, en fait une bière, en fin d'après-midi, je précise, hors des heures de bureau, avec un des partenaires du fonds, que je connais bien, c'est un copain. Bon, et on discute de ça. Et, littéralement, la discussion, c'est... les traumas, qu'est-ce que tu vois et dis-moi ce que je vois. Histoire vraie, hein. Et il me dit, ce matin, j'ai revu un entrepreneur, je ne sais pas encore si je vais investir, mais on se balade dans la rue, à Palo Alto. Steve Jobs faisait ça très souvent.
Oui, il marchait.
Donc à Palo, tu vois les gens qui marchent.
Oui, ils marchent en discutant.
En fait, des investissements. Hein. et il me dit ceci, eh ben, ce garçon, il a vécu 7 ans dans un trailer. Trailer, c'est un...
C'est des caravanes pourries dans les banlieues immondes.
C'est un camping-car. Avec un père alcoolique. Tiens, voilà.
Ouais.
Bon. Et alors, il me dit ça m'intéresse beaucoup parce qu'il a peur de rien. Ça veut dire quoi ? Le mec va monter sa boîte. Il commence l'aventure, donc...
Il a peur de rien, mais est-ce qu'il n'a pas peur du déclassement non plus ?
Il n'a rien à perdre. Il va voir un client, le client lui dit « Non, je ne t'achète pas. » Le mec s'en fout. Par rapport à ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire que ce qu'il a déjà vécu ? Le mec ne peut pas tomber. Il vient du sous-sol. Il ne peut que monter. C'est ça le truc. L'investisseur lui dit non, Foundation, le mec, il va en voir d'autres. Il a peur de rien.
Ouais.
C'est la mentalité d'Elon Musk. Eh bien, il a peur de rien, Elon Musk.
Ouais. Tu peux aussi inverser le propos qui consiste à dire qu'une fois que le mec commence à arriver quelque part, il a un petit diplôme d'ingénieur, il rentre dans une boîte de tech... Tu peux aussi évoqué le fait que cette personne, ce type, peut être terrorisé par le fait de retomber. Et Dieu sait qu'en Amérique, on retombe très très vite. Donc, est-ce que ça ne marche pas un peu dans les deux sens? Tu vois ce que je veux dire?
C'est une bonne question. Alors là, c'est une très bonne question. Appelons Wendy Rhodes, parce que je ne suis pas psychologue. Mon sentiment, c'est plutôt, il connaît déjà, donc ça ne lui fait pas peur.
C'est possible. Je pense que c'est ça qui l'emporte.
C'est plus ça. Ouais, donc, ouais. Mais au-delà de ça, si tu veux, c'est le type, quand tu es entrepreneur, entrepreneuse, tu te prends des portes, mais du matin au soir, mais pas pendant 3 mois, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, même après l'IPO.
Oui, oui, l'introduction en bourse.
On le voit en ce moment, il y a eu des IPO, aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Oui. Donc bon, l'IPO, ce n'est pas le bout du chemin, c'est au milieu du chemin. Donc, tu te prends des portes en permanence. Quand tu t'es pris une vraie porte, si je puis dire, par ton père, si tu veux, la porte d'un investisseur ou d'un client, ce n'est pas grand-chose. C'est ça le truc. Donc ça ne veut pas dire, attention, et c'est là où le sujet est sensible, il ne faut pas avoir été un enfant battu pour réussir.
On est d'accord.
C'est pas du tout ce qu'on dit. Hein.
Mais ce sont, à t'entendre, des conditions qui sont quand même surreprésentées dans la Silicon Valley.
C'est pas que c'est surreprésenté dans la Silicon Valley. C'est surreprésenté quand tu regardes très 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 près les entrepreneurs qui sont au-dessus du lot.
Ouais.
L'énorme problème, le vrai problème, que seuls les très grands investisseurs connaissent, c'est que il faut que tu... c'est une ligne de crête. Il y a une fine line entre... Et pardon de mon anglicisme, mais un entrepreneur assez fucked up, comme on dit, c'est-à-dire avec des traumas. Mmh. Le problème, c'est que s'il est vraiment, vraiment traumatisé, ça va dans le mur. Donc, les grands investisseurs, ils vont chercher d'entrepreneurs qui sont très borderline. Le fondateur de WeWork, Adam Neumann, qui a relevé 400 millions de dollars pour sa nouvelle boîte.
Oui, absolument, ce qui est moralement abject entre nos souhaits d'IMS.
La raison pour laquelle Andreessen a remis 400 millions, c'est qu'ils savent que le mec est tellement taré qu'il peut faire un truc démentiel. C'est ça le truc.
Oui.
C'est un mec qui sort d'un kibbutz. Enfin, tu regardes ça, problème avec son père. C'est fascinant. Alors, là, on parle des stars. Mon propos ce matin avec toi, c'était pas forcément, c'est pas de parler des stars, c'est parler vraiment des entrepreneurs.
Tout à fait.
Qui seront peut-être des stars d'ailleurs, ou pas.
Mais alors, moi, la question que je te pose, c'est lorsqu'un investisseur fait ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire qu'il va regarder l'état de l'entreprise, l'état du projet, il va regarder le passé, la formation de l'équipe dirigeante. Est-ce que l'investisseur, au moment où il fait son analyse, il a aussi cette composante où il va essayer d'interroger l'entrepreneur de façon suffisamment approfondie, peut-être avec Wendy Rhodes à ses côtés, pour essayer de trouver cette faille. Est-ce qu'il va vraiment faire l'effort de plonger dans le passé de la personne pour lui dire à un moment donné, mais racontez-moi vous votre enfance. Est-ce qu'ils ont ce genre de conversation ou pas?
C'est une super question. Comme d'habitude, mon cher Frédéric.
Merci.
Écoute, la réponse, elle est simple. La réponse, c'est, il y a des conditions de marché. Il faut regarder les cycles économiques. Hein. Je m'explique. Quand le marché est haut, comme c'était le cas en 2021 jusque la première moitié de 2022, les deals, donc le marché délire, hein, le marché part dans le mur. Donc, les deals se font très, très vite. Donc là, le problème que tu as quand tu es investisseur, c'est que tu n'as pas vraiment le temps, quand tu ne connais pas l'entrepreneur, tu n'as pas vraiment le temps de creuser, tu n'as pas le temps de te balader à Palo Alto. La réponse, c'est oui ou non, parce que sinon, c'est un de tes petits copains compétiteurs, autre fonds de venture, qui va faire le deal à ta place. Donc, les conditions de marché, ça veut dire que quand tu es dans une phase en haut de cycle, tes due diligence, il n'y en a quasiment pas. Là, maintenant, on retourne dans une phase normale, donc saine, où l'investisseur peut faire son boulot. Et dans ce cas-là, c'est la différence entre les bons et les mauvais. Les mauvais investisseurs, ils passent à côté. Les bons, ils vont prendre le temps de connaître la vraie histoire de la personne qui est en face.
Oui.
Mais ce n'est pas facile, et c'est ça le sujet. Tu as des tonnes, et tu connais très bien la vallée, tu as des tonnes d'investisseurs, donc avec des égos absolument démesurés, et qui ont une empathie nulle. Bon, un type qui a une empathie de zéro, il n'arrivera jamais à faire parler à un entrepreneur. Et à l'inverse, et c'est ça qui fait on parle des super entrepreneurs, mais ce qui fait les super investisseurs, ils sont très rares, c'est cette empathie, c'est le fait qu'ils dégagent une confiance, qu'ils mettent à l'aise et qu'ils savent faire parler l'entrepreneur. Et ils sont très rares, ces gens-là.
Et quelle est la
indispensable.
Et quelle est la proportion, évidemment pas chiffrée, mais quelle est grosso modo la proportion des entrepreneurs qui, lorsqu'ils vont avoir en face d'eux une personne empathique, habile, fine, vont avoir tendance à s'ouvrir pour révéler leur vraie personnalité et leur drive intime, quoi.
Mon instinct saupoudré d'un petit peu d'expérience me fait répondre que si tu rentres habilement, si tu t'intéresses à l'entrepreneur, que tu te dévoiles aussi un petit peu toi-même, et que tu prends le temps de parler de ces choses-là qui sont ultra sensibles, pratiquement tous les entrepreneurs vont en parler. Parce que, chez les très bons entrepreneurs, ils vont se dire, voilà, enfin, un investisseur qui parle des vraies choses. Et, mais c'est très rare. Et c'est fascinant de constater que, quand tu rentres sur ces sujets, très vite, les entrepreneurs se livrent en fait assez facilement. Je vais te dire un truc. Puisque personne ne nous écoute.
Voilà. C'est entre nous.
Exactement. juste avant de venir à Paris, à San Francisco, j'ai pris un café avec une investisseuse, on va dire européenne. Et donc on parlait de ça. Trauma, rapport au père, psychologie, etc. Dans la foulée, elle m'a raconté son histoire.
Ah oui.
Une Palestinienne, née à Ramallah. 17 ans à Ramallah. Pour aller à l'école, elle est à l'école à Jérusalem.
Ah oui, d'accord.
3 heures de marche pour franchir le mur et revenir. Jusqu'à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, elle quitte Ramallah et elle débarque à Paris. Seule, à 17 ans, elle ne parle pas français. Elle a fini par faire l'école des mines de Paris. Elle est ici aujourd'hui, Deep Tech. Elle est absolument exceptionnelle. Elle a faim, elle veut monter son fonds, comme tu peux l'imaginer.
Bien sûr.
Et elle est absolument exceptionnelle. Mais c'est, j'étais pas surpris une seule seconde. Voilà des parcours rares, magnifiques, qui expliquent à tout le moins une ambition franchement supérieure à la moyenne.
Je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'Elon Musk et de ce qui ressort de la biographie de Walter Isaacson qui est sortie simultanément aux États-Unis et dans plein de pays. Ce que je retiens, moi, de cette biographie, c'est effectivement cette espèce de traumatisme incroyablement profond qu'il a par rapport à son père.
Et voilà.
Est-ce que toi, d'un point de vue cette fois totalement investisseur, tu penses que la principale faiblesse, la liability, comme on dit, de Tesla et de SpaceX, c'est la mentalité un peu tarée d'Elon Musk?
Alors, si je me permets de reformuler la question, ta question c'est, vu d'un investisseur, si Musk refaisait une boîte, est-ce que tu mettrais dans la boîte? Fondamentalement, c'est ça ta question.
Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là ma question, parce que la réponse à cette question-là, de mon point de vue, c'est oui, 100 fois, parce que le mec, il a une vista, et en plus de ça, une capacité de passer du général au particulier qui est extraordinaire. Et donc, là, ça plaiderait plutôt, c'est simplement aujourd'hui, on est sur des entreprises qui approchent, grosso modo, le milliard de dollars de valeur, c'est-à-dire que les conditions sont différentes. C'est-à-dire que maintenant, il y a une espèce de rationalité qui doit s'imposer, qui est...
Ce sont des boîtes publiques.
Voilà. En tout cas, Tesla.
Plus Twitter.
Ouais, non, plus Twitter et pas SpaceX. Néanmoins, je veux dire, aujourd'hui, tu es investisseur dans un hedge fund ou dans un portfolio quelconque. Est-ce que tu recommandes ou pas d'acheter Tesla?
Et j'ai pas de pression, là, quand tu me poses une question pareille.
Non, mais moi, je mets toujours un petit peu la pression. Je parle avec les gestes, en plus, ça ne se voit pas.
Alors, la séquence Boursorama. Non, franchement, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire effectivement plutôt non.
Ah oui, quand même.
Oui, parce que quand la boîte est publique... tu peux avoir des événements qui font que... Voilà.
J'ai deux questions pour finir. D'abord, est-ce que les femmes sont différentes? On a l'impression, mais c'est purement intuitif, mon jugement, que le facteur trauma est moins important chez les femmes qui ont plus tendance... Les femmes entrepreneurs, je parle, qui auraient éventuellement plus tendance à rationaliser et à se comporter finalement de façon beaucoup plus... beaucoup plus rationnelle dans la gestion et dans leur entreprise. Est-ce que je me trompe ou pas?
Je ne sais pas, parce qu'en moyenne, elles ont encore plus de difficultés que les hommes. Je ne parle pas de leur vie, de leur trauma. Hein. Mais quand tu es entrepreneuse, ce sera encore plus dur.
C'est insensé, d'ailleurs, ça progresse très peu dans la Silicon Valley.
Mais quand tu regardes la data pure, quand tu es femme ou d'une minorité, aux États-Unis, tu es black, tu es latino, en moyenne, je vais m'arrêter là, mais d'abord, tu connais moins de monde que le mec blanc. Les gens que tu connais... sont, par leur fonction, par ce qu'ils font dans la vie, moins à même de t'aider. Et les données montrent que les gens de couleur obtiennent moins de rendez-vous que les blancs. Donc, idem pour les femmes.
C'est monstrueux, ça progresse très peu, c'est ça.
C'est le vrai problème de la diversité, c'est le vrai problème de fond. En clair, pour aider les femmes et les minorités, il faut les aider à améliorer la qualité et l'étendue de leur réseau. Voilà. Et ça, personne n'en parle, mais c'est la data qui le montre. Maintenant, pour revenir à ta question, honnêtement, j'en sais rien. Je pense que, alors c'est peut-être une banalité, mais les femmes ont, en moyenne, une psychologie plutôt win-win.
Oui, c'est possible, ça.
Surtout chez les entrepreneurs, où ils sont tous très compétitifs.
Oui.
Les mecs, c'est je gagne, tu perds.
Oui. Et il est important que tu perdes. Et
il est surtout très important. Enfin, ça me ferait plaisir vraiment que tu te ramasses.
Oui. Ah, oui, c'est un truc qui
et
que
donc,
j'ai trouvé.
Déjà dans le management d'équipe, ah, collaboration. Oui, c'est... voilà, c'est quand même mieux de bosser avec une femme ou pour une femme.
Oui, je pense aussi. Alors moi, j'ai une, pour terminer et pour reboucler avec le tout début de la discussion, comment se fait-il que les grands fonds d'investissement n'ont pas de Wendy Rhodes, c'est-à-dire en résidence un ou une psychologue qualifiée, capable d'aller au fond de tout ça? Et ma question suivante, enfin ma question liée à ça, si demain toi tu avais à créer un fonds de Venture Cap, est-ce que dans ton équipe dirigeante, tu ne trouverais pas malin d'avoir ce profil-là?
Tu dois encore une super question.
Ben voilà. Ah, tu n'es pas venu pour rien. Hein. Tu n'es pas souvent en France, mais voilà.
Voilà, puis j'essaierai de revenir surtout.
Très bien.
D'abord, les firmes donc, de Venture Capital, ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Ce sont en fait une juxtaposition de personnalités.
C'est exact, oui. C'est vrai.
Chacun son
ouais.
processus, chacun sa façon de faire, etc. Ce qui fait que si tu commences à dire « il va falloir que je vous mette un ou une psychologue pour faire votre boulot », chaque personnalité, t'en as qui vont dire oui, ah bah c'est une bonne idée. Et puis t'en as d'autres qui diront non mais ça va, je sais faire mon boulot.
Oui, mais enfin ce sont des gens qui regardent beaucoup la dimension quantitative de tout
non,
ça.
Non.
Et
non.
qui vont dire.
C'est le deuxième problème de l'industrie. Le deuxième problème de l'industrie, c'est que la valeur de chacun de ses partenaires est liée à leur track record. Donc si tu dis à un partenaire d'un fonds quelconque aux États-Unis.
Alors performance,
écoute,
ouais.
Écoute mon coco, je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ça. La réponse, elle va être immédiate. T'es gentil Frédéric, mais moi j'ai trouvé Uber il y a 10 ans. Donc on va pas changer parce que sinon je serais pas capable de le refaire.
Ah oui.
T'es là au cœur du fonctionnement de cette industrie. Et donc forcément t'es tétanisé parce que tu dis bah ouais il a raison. Mmh. Ouais, sauf que la façon, quand tu regardes vraiment et qu'on est un peu honnête, t'as eu du pot sur Uber.
Oui.
c'est la réalité.
Ouais, c'est vrai.
Parce que les fonds qui sont capables de faire 10 Uber d'affilée, il y en a un, ils sont 4. Mmh. Mais voilà, donc c'est consubstantiel à la façon dont fonctionne l'industrie, et c'est comme ça, et c'est pas... Plus, bien sûr, des égos assez surdimensionnés.
Tout à fait. Ouais.
Donc, imposer une Wendy Rhodes, je te souhaite un bon courage, même si c'est une idée fantastique. Ah, maintenant, tu poses la question, si moi, je devais faire un fonds, ma réponse, c'est oui.
Okay.
Il faudrait, d'abord, que je sois formé et coaché par des psychologues. Pourquoi, évidemment, pourquoi pas ne pas avoir une Wendy Rhodes dans le système? Et j'ajouterais, je serais augmenté par une machine, parce que tu parlais de billions, et ce sera peut-être le mot de la fin. Donc j'aurai une Wendy Rhodes, j'aurai une psychologue, fondamentale, mais il y aura aussi une machine.
Bon, on se reparle peut-être dans quelques années, si tu as mis en évidence tout ça. Et en tout cas, je te remercie infiniment de t'être arrêté dans les studios d'Express. C'est toujours un plaisir de te voir et de te parler. Merci infiniment, Romain.
Merci, Frédéric.
Après cette conversation et celles qui l'ont précédée, j'avoue que mon regard sur celles et ceux qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale a changé. Je comprends mieux leur comportement, parfois tyrannique, leurs excès, voire leur mégalomanie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante contrôlef@l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. À bientôt.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.